Chapitre 10. Quelques jours plus tard. Hôtel. Depuis que j'ai quitté la villa, je reçois une multitude d'appels et de messages écrits. Je suis portée disparue pour tous mes anciens associés. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'en ressentais pas l'envie. Je n'ai pas le droit d'en vouloir à Mathieu pour ce que les deux autres connards m'ont fait. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver seule pour réfléchir à ma situation. Mon téléphone est éteint la plupart du temps pour éviter que Mathieu me localise et qu'il débarque à l'improviste. Je n'ai versé aucune larme depuis la découverte de ce complot, même si elles ont failli couler plusieurs fois. Je suppose que c'est le peu de fierté et d'ego qu'il me reste qui m'empêche de pleurer. Je suis sortie des griffes de mon paternel pour me retrouver dans celles d'un homme encore plus dangereux que lui. J'ai mis de côté mes principes et mes valeurs en lui donnant ma virginité alors que, depuis le début, son seul but était de me manipuler et de faire de moi un coffre-fort vivant pour ses merdes. Toute ma vie, je n'ai cessé de me faire passer pour une femme forte et vaillante tant physiquement que mentalement. Et voilà, je me suis fait baiser par un homme qui a juste eu à me vendre du rêve en me baratinant. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir été trahi, mais de lui avoir donné les moyens de le faire et d'avoir été aveuglé. Il connaissait ma peur de l'abandon et surtout ma difficulté à m'attacher, mais il s'en est servi contre moi. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter cette alliance ni m'installer chez lui. En faisant ces choix, je me suis mise un pied dans la tombe toute seule. J'aurais dû garder une mauvaise image de lui sans apprendre à le connaître. Si je n'avais pas vu sa part de bonté, je n'aurais pas aussi mal aujourd'hui. J'ai été la chose d'Amir Ben Khalif. C'est donc ainsi que les gens me verront lorsqu'ils apprendront mon histoire. Pathétique. Je sais très bien qu'Amir attend juste le bon moment pour venir récupérer les clés. Il n'abandonnera jamais et il n'hésitera pas à m'assassiner ou à me torturer pour les obtenir. Quand mes ennemis sauront que je suis en possession de la totalité des clés, ils me pourchasseront tous pour me dépouiller. J'ai essayé de connecter les différentes clés à mon ordinateur, mais un cryptogramme indéchiffrable est immédiatement apparu. Je suis plutôt à l'aise en informatique, mais ça dépasse mes compétences. Seul Mathieu parviendrait à hacker le système pour découvrir l'emplacement de la puce, mais faire appel à Mathieu revient à demander de l'aide à Amir. Or, je préfère ne pas savoir où est la puce plutôt que de revoir ces hommes. Je suis dans un hôtel miteux du coin. Rien à voir avec la villa Ben Khalif, mais c'est supportable. J'ai pas les moyens de me prendre une chambre dans les grands palaces de la ville. Quand ma collaboration avec Ahmed s'est terminée, ce connard a vidé mes comptes. La chambre est à la limite de l'insalubrité avec du papier peint dégueulasse, il y a une ampoule qui ne fait que disjoncter, une minuscule table de chevet, à moitié rongée par je ne sais quel nuisible, un lit, une place dont les draps ne sentent pas la rose et dont la tête est déchirée. Il n'y a pas d'armoire. Toutes mes affaires sont encore dans mon sac de voyage. J'ai quand même une petite salle de bain avec une douche qui n'a pas l'eau chaude, un robinet qui ne fonctionne qu'à moitié, le miroir a été tagué et les toilettes sont dans un état catastrophique. 18h57. J'observe mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Une grosse bosse au niveau du front, une lèvre fendue et gonflée, une éraflure au niveau de la joue droite, le nez bleuté et un œil avec la trace d'un coquard qui s'est estompé au fil des jours. Je fais tomber ma serviette pour me retrouver complètement nue. Mon corps n'a rien à envier à mon visage puisqu'il est dans un état similaire. Mon ventre et mes côtes sont parsemés d'ecchymoses violacées. Sur mes jambes, différentes blessures sont apparentes. Amir Ben Khalif. Ce prénom restera ancré dans ma mémoire. Je remarque que mes cheveux sont un peu longs. Je sors une paire de ciseaux du petit tiroir en dessous de l'évier et je les coupe. Ils tombent par touffes et honnêtement, ça m'indiffère. Je les coupe, jusqu'à ce qu'ils m'arrivent aux épaules. Je me suis toujours sentie mieux avec les cheveux courts. Une sonnerie me sort de mes pensées. Je ramasse ma serviette et l'enroule autour de mon corps. Je me dirige vers la chambre pour prendre mon téléphone. Le numéro qui s'affiche m'étonne autant qu'il suscite mon intérêt. Ça faisait longtemps, Ahmed. J'ai pas de temps pour les politesses, répond mon père avec ennui. Je soupire. Que je sache, c'est toi qui m'appelles. Je rétorque. Il faut qu'on se voie. Je fronce les sourcils. Pour discuter. À chaque fois que t'as voulu discuter, j'ai été blessée ou je me suis retrouvée avec plusieurs armes pointées sur ma gueule. Je réponds en levant les yeux au ciel. Tu viens et tout se passe bien, ou j'appelle immédiatement mes hommes qui se feront un plaisir d'abattre ton copain avec les yeux bleus, qui est actuellement en train de faire ses courses dans le centre-ville. Je serre immédiatement les poings. Envoie l'heure et l'adresse par message. Je raccroche, puis je jette mon téléphone sur le lit sur lequel je me laisse tomber en soupirant. J'avais presque espéré qu'Ahmed m'ait oublié après tout ce temps sans nouvelles. Mon téléphone vibre à nouveau. Le rendez-vous est fixé à 21h et le lieu du rendez-vous est à une vingtaine de minutes d'ici. Je me relève et fouille dans mon sac de voyage. J'en sors un pantalon noir et un haut moulant à manches longues. Une fois habillée, j'enfile une paire de bottines et je laisse mes cheveux détachés. Je prends une veste noire. Je place deux armes à l'arrière de mon pantalon. Il vaut mieux être trop prudente et en vie que l'inverse. Bar Santa Rosa, 20h49. J'entre dans le lieu du rendez-vous. Mes yeux sont vite aveuglés par les lumières qui m'éblouissent. Il s'agit d'un bar fréquenté exclusivement par des hommes. Je suis la seule femme présente. Les armes que portent les hommes me font comprendre que cet endroit est plein de personnes peu recommandables. Je cherche du regard Ahmed, ou l'un de ses hommes, mais il ne semble pas être encore arrivé. Je m'installe au bar. Le serveur me propose à boire, mais je refuse. Je préfère rester lucide. Je sens des regards insistants. Néanmoins, je les évite. Je tourne la tête et remarque une gigantesque cage transparente à laquelle on accède en montant des escaliers, à l'intérieur de laquelle se trouve un homme torse nu, vêtu d'un jean large bleu, assis à même le sol. Il semble attendre quelque chose. Je le regarde quand, d'un coup, il relève la tête. Lorsque son regard croise le mien, il me fixe d'un air impassible. Je préfère détourner immédiatement les yeux. « Vaut mieux pas le regarder », me conseille le barman. Je lève ma tête vers le barman. « Pourquoi est-il dans une cage ?»« Parce que c'est une brute. Il sait que cogner. Il est incontrôlable. Il sait à peine parler. Il reste tous les soirs dans sa cage en attendant que son adversaire arrive. » Je hausse les sourcils. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» C'est un combattant, le meilleur de tous. Vous l'enfermez de force? Il n'a pas le droit de sortir? Je demande. Le barman me regarde, visiblement ennuyé par mes questions. Vous êtes journaliste ou quoi? S'agace-t-il. Non, juste curieuse. Je lui adresse un petit sourire qui semble le détendre. On l'enferme pour sa sécurité et la nôtre. Il vit dans une petite chambre au-dessus du bar. Le soir, quand les combats sont finis, il retourne dans sa chambre. En journée, il est calme. Dès que la nuit tombe, il devient instable, donc on est obligé de prendre des mesures. Avoue le barman en soupirant. Je fronce les sourcils. C'est inhumain ce qu'ils font à cet homme. J'ai l'impression d'entendre les dirigeants d'un cirque parler d'une bête de foire. Je sens quelqu'un me toucher l'épaule. Je me retourne et je croise le regard d'Ahmed, accompagné de ses sbires. T'en as mis du temps. Ahmed lance un regard noir au barman qui déguerpit dans la seconde. Je me lève de ma chaise et me place en face de lui et de ses cinq hommes de main. « Tu t'es fait écraser par un camion ou quoi ?» se moque mon père en passant sa main sur son visage. « Non, pas Ramir. On n'est pas là pour parler de l'état de ma gueule, n'est-ce pas ?» Je rétorque en haussant les épaules. « En effet, j'ai appris récemment que toi et Amir étiez devenus intimes. » Je le regarde étrangement. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que t'as écarté les jambes devant ce fils de putain. Crache avec animosité mon père. Je sais pas ce qu'il veut, mais ma vie privée le concerne pas. Qui t'a dit ça? Amir lui-même. Il était vraiment obligé de se vanter de nos prouesses sexuelles auprès de mon père. Je soupire et feins l'indifférence. Ce que je fais de mes fesses ne regarde que moi. Il fronce les sourcils et serre les poings. « T'es vraiment qu'une fille de pute et une ingrate. T'as couché avec ce petit bâtard qui se croit supérieur à tout le monde !» hurle mon père en attirant l'attention sur nous. « Ce ne sont pas tes affaires. Je rétorque en serrant les poings. Il m'assassine du regard. Il s'avance vers moi et me domine. Mais je me démonte pas. Comment t'as pu écarter les jambes devant ce chien? Tu m'as trahi! Crie Ahmed. Je lève les yeux au ciel devant son attitude. Arrête avec tes leçons de morale. Tu m'as toujours renié et maintenant que tu sais que j'ai couché avec Amir, tu veux me faire croire que c'est moi qui t'ai trahi? Réfléchis à tout ce que tu m'as fait et tu comprendras que ce qui s'est passé entre Amir et moi, ce n'était rien par rapport à tout ce que toi, tu m'as fait subir depuis ma naissance. Il bouillonne de rage pendant que je reste indifférente. Il est inutile d'entrer dans son jeu. Je refuse d'avoir des nouvelles blessures. J'aurais dû te tuer dès que je me suis rendu compte que tu n'avais pas de couilles. Je t'ai gardé avec moi et c'est grâce à moi si tu sais te battre et te défendre. Pour me remercier, t'as couché avec ce putain de bâtard. Crache Ahmed en me toisant de haut en bas. Je le regarde avec dégoût et haine. Ces mots ne me font plus de peine. J'ai l'habitude. Je comprends pas pourquoi il semble s'y impliquer. T'en as jamais rien eu à foutre de moi et t'as même vendu ma virginité. Qu'est-ce qui te fait croire que t'as le droit de me reprocher quoi que ce soit? Je réponds en réprimant mon envie de lui mettre mon poing dans la gueule. Je suis ton père. Je t'ai élevé et que tu le veuilles ou non, mon sang coule dans tes veines. Affirme mon paternel. Je lâche un rire moqueur. T'es pas mon père et tu l'as jamais été. Mon corps n'appartient qu'à moi et j'en fais ce que je veux, que ça te plaise ou non. Ahmed sort son arme. Il se met à tirer plusieurs balles dans le toit du bar. Les personnes présentes hurlent et partent en courant vers la sortie. En l'espace de quelques minutes, il a vidé le lieu. Abstraction faite d'Ahmed, ses hommes et moi. Voilà qui est mieux. J'en avais marre que tout le monde entende notre dispute familiale. Ricane-t-il. Son ton est cynique. Me retrouver désormais seule avec lui et ses chiens de garde ne me ravit pas. Mais je ne laisse rien paraître. Si tu veux qu'on soit seul, dis à tes hommes de partir. Il affiche un sourire en coin. Je préfère qu'il reste. Évidemment. Tu penses tout savoir mieux que tout le monde, mais tu t'embarques dans des choses qui te dépassent et qui sont bien au-dessus de ton petit monde de merde. Je reste imperturbable. Si c'est pour cracher ta haine, t'aurais pu m'appeler en visio. D'ailleurs, il est où ton fils de pute de Ben Khalif? Demande Ahmed. Je réponds pas. Ahmed m'offre un grand sourire. Il t'a bien baisé, puis il t'a dit de te tirer, n'est-ce pas? T'as le regard d'une femme blessée et trahie. Laisse-moi tranquille, Ahmed. Je suis volontairement glaciale. Je vais rendre ta vie encore plus merdique qu'elle ne l'est déjà, jusqu'à ce que tu sautes toi-même du haut d'un immeuble pour mettre fin à tes jours. Comment cet homme peut-il être mon père? Je n'arrive pas à comprendre toute la haine qu'il ressent à mon égard. Un homme sain d'esprit ne dirait jamais ça à la chair de sa chair. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes à ce point? Je le questionne. J'aimerais tant avoir une explication. Il ne peut pas me haïr juste à cause de mon genre. Depuis que t'es née, t'as pourri ma vie, mais c'était supportable. Depuis que tu fréquentes l'autre merde, je te déteste tellement que j'aimerais t'arracher chacun de tes membres pour tout le mal que t'as fait. Hakim est mort. La seule personne qui comptait pour moi dans ce monde a été butée à cause de toi. Et ça, je te le pardonnerai jamais. Crie Ahmed avec rage et désespoir. Je le regarde choqué. Il est persuadé que je l'ai empoisonné. Et dire que je ne suis même pas responsable de cette mort, même si j'aurais adoré l'être. J'aurais dû me douter qu'il ne laisserait pas la mort d'Hakim impunie et qu'il voudrait un coupable, même si ça remonte à quelque temps maintenant. J'ai rien fait. Tu devrais plutôt mettre ta haine à profit pour retrouver son meurtrier et le venger si tu l'aimais autant que tu le dis. Il respire fort. Il s'avance de plus en plus vers moi. J'ai sa meurtrière sous les yeux. T'as le sang de mon gamin sur tes mains. Il est en train de perdre son sang-froid. Il fait de grands gestes avec les mains et des larmes brillent au coin de ses yeux. Je l'ai jamais vu dans un état pareil. Il pourrait presque me faire de la peine s'il n'était pas aussi monstrueux. Je suis pas obligée d'écouter ça. Je suis venue parce que je pensais que c'était important, mais comme toujours, tu m'as fait venir pour me rabaisser et m'insulter. Je me faufile pour quitter cet endroit quand ces hommes me bloquent. Je soupire de frustration. Tu vas rester ici et m'écouter. Mon seul réconfort dans cette histoire, c'est d'avoir appris que Sam était mort. J'espère que tu souffres autant que moi j'ai souffert d'avoir perdu Hakim. Se moque Ahmed. Je lui colle une énorme gifle qu'il se mange de plein fouet. Mon rythme cardiaque s'emballe. Mon cœur se serre et j'ai un nœud dans la gorge. Ne prononce plus jamais le prénom de Sam. C'était un homme formidable qui mérite le respect. Il a toujours été droit et tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Il affiche un sourire moqueur. Dommage, mais c'est moi ton père, pas lui. Je l'ai toujours considéré comme mon père pour tout ce qu'il a fait pour moi. Toi, t'as juste servi à la conception et rien d'autre. Il rit à gorge déployée tout en me dévisageant avec haine. J'aurais dû te faire violer comme la merde qui te servait de mère. Dès que mon cerveau assimile ces paroles, je tremble et ressens un pincement au cœur. Une vague d'émotions me submerge, la même que lorsque j'ai découvert cette information la première fois. Je me souviens quand Sam m'a appris que ma mère avait été violée en réunion par 9 hommes, dont le bâtard qui me sert de père. J'ai envie de vomir toutes mes tripes rien qu'en y repensant. Ahmed affiche un sourire fier. Cet homme est la plus belle ordure que j'ai vue. Le pire, c'est qu'il ne sait pas que je suis déjà au courant de cette histoire. Donc, il dit ça uniquement pour me blesser encore plus et m'achever. J'ai une idée. Il jubile pendant que je lutte pour ne pas m'effondrer. Laisse-moi partir, tout de suite. J'ai prononcé ces mots dans un léger murmure. Habituellement, je suis capable de lui faire face, mais pas cette fois. Ma mère est un sujet sensible qui me heurte. Je vais récompenser mes hommes ici présents pour leur travail en les laissant passer du bon temps avec toi, plaisante-t-il. Je le regarde avec dégoût tandis que ces hommes me reluquent avec des sourires remplis de vice et de perversité. Je m'apprête à sortir mes armes lorsque l'un d'entre eux les attrape pour les balancer à l'autre bout de la pièce. Je suis tellement bouleversée que je me suis pas rendu compte qu'un gorille d'Ahmed manquait et qu'il était derrière moi. Ne vous approchez pas de moi. Ahmed s'assoit sur une chaise pour admirer le spectacle. L'homme derrière moi bloque fermement mes bras pour m'empêcher de bouger. J'hurle pour qu'on vienne m'aider, mais il n'y a plus personne dans le bar. T'as voulu écarter les jambes devant le bâtard d'Ibn Khalif? Autant que mes hommes en profitent aussi puisque t'es plus vierge. Se moque mon paternel en souriant. Bien que je me débatte, l'un des hommes attrape les extrémités de ma veste qu'il me retire pour la jeter au sol. Les autres hommes arrachent mon haut. Je me retrouve en soutien-gorge devant ces bâtards qui se lèchent les lèvres. J'essaie de donner des coups de pied en vain. Mes mouvements ne sont pas assez rapides. L'un des hommes se met à toucher les bretelles de mon soutien-gorge et tente de les faire descendre. Je lui donne un coup de pied dans l'entrejambe et il se recroqueville sur lui-même. Un autre me gifle violemment. Je suis déboussolée et ne bouge plus jusqu'à ce que je sente un des hommes m'embrasser le ventre. Quand retentissent des coups de feu à l'extérieur du bar, Ahmed hausse immédiatement les sourcils et ses hommes aussi. Celui qui me tenait les bras relâche légèrement son emprise. J'en profite pour lui donner un violent coup de tête. Je cours en direction des escaliers du bar. « Rattrapez-moi cette garce !» ordonne Ahmed. Je monte rapidement jusqu'à arriver devant la cage transparente. Je cherche à y rentrer, mais un code m'en empêche l'accès. Je me heurte à celle-ci. Les hommes d'Ahmed s'approchent de plus en plus. Ils sont à 2 doigts d'être à ma hauteur et de m'attraper. Il n'y a aucune issue. L'un des hommes d'Ahmed s'avance avec un sourire pervers. Il est sur le point de me prendre lorsque l'homme de la cage m'attrape le poignet et me fait rentrer en vitesse. Je souffle de soulagement en voyant la cage se refermer, mais le répit est de courte durée. L'un des chiens de mon père tire sur l'endroit où se trouve le code de la cage. Un bruit de dysfonctionnement se fait entendre. « On se replie vite !» leur indique Ahmed. Le type est sur le point d'entrer dans la cage, mais il pousse un juron. Tous s'enfuient en courant vers l'arrière du bar. Je suis enfin tiré d'affaire et j'ai évité le pire. Je reprends mon souffle et tente de me calmer. Je me retourne vers l'homme qui m'a aidé. Il a 20aine d'années, le teint mat. Il est très grand. Il est bâti comme une armoire à glace. Ses cheveux sont noirs, ébouriffés et il a les yeux verts. Ma carrure est ridicule à côté de la sienne. Il s'avance vers moi, me porte et me soulève du sol comme si j'étais un sac à patates. « Mais qu'est-ce que tu fous? Repose-moi tout de suite !» Je hurle. Il ne répond pas et me balance par terre dans un coin de la cage. J'émets un léger gémissement de douleur. Il se rapproche dangereusement de moi. Je ferme les yeux pensant qu'il va m'en foutre une, mais je ne sens rien venir, même après plusieurs secondes. Quand je me décide à rouvrir les yeux, je le vois en train de me fixer de très près, comme si mon visage était une énigme. Il me déstabilise. Je ne m'attendais pas à ça. Il pose sa main sur ma joue qui a été giflée par l'un des larbins de mon père. Il affiche un petit sourire. J'ouvre la bouche pour parler quand je vois le corps de cet homme mystérieux propulsé contre le mur de la cage. Je crois d'abord que les hommes d'Ahmed sont de retour, mais c'est Amir.